Absurdistan. Les chroniques de l'absurde. La CIMAD, association de solidarité, agit avec les personnes migrantes depuis 1939. Elle défend leur accès aux droits jusque dans les lieux de privation de liberté. La CIMAD va à la rencontre de ces personnes, enfermées pour le seul fait d'être en situation irrégulière sur le sol français. Absurdistan. Un rendez-vous radiophonique proposé par la CIMAD en partenariat avec Campus FM. Préparé et présenté par les intervenants et bénévoles de la CIMAD au centre de rétention de Toulouse.
Bonjour. Dans le cadre des chroniques de l'absurde, nous vous proposons d'écouter maintenant un petit exposé sur l'art qu'on nous élite pour présenter positivement l'échec d'une des mesures mises en place par la dernière réforme du droit des personnes étrangères. Ce billet a été écrit et mis en voix par Bernard avec le concours de Léo, intervenant au CRAD de Cornabarieux pour la CIMAD. Deux fringants députés, représentatifs de la classe politique issue des grandes écoles de la République, HEC, Sciences Po Paris et, avec pour l'un d'entre eux, un petit passage au King's College et à la London School of Economics, furent les rapporteurs spéciaux sur l'immigration, l'asile et l'intégration, la loi de finances 2020, annexe 28 du rapport numéro 2301. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une lecture des 53 pages de ce document, ni une analyse détaillée de celui-ci, mais mettre en évidence la façon dont les rapporteurs ont transformé l'échec d'une politique affligeante en une brillante réussite. Confortant ainsi le législateur sur la pertinence de la réforme de la loi, ayant allongé la durée maximale de rétention de 45 à 90 jours. Pour cela, il aura suffi de présenter d'une manière biaisée les chiffres illustrant le résultat de cette politique. Ce rapport dit
« Durant le premier semestre 2019, 12 394 personnes ont été placées en CRA en métropole pour une durée moyenne de 16,9 jours. Au sein de ce contingent, 1313 personnes, soit 10,6% des personnes admises en rétention, ont été retenues plus de 45 jours. Sur ces 1313 personnes, 595 ont été retenues plus de 60 jours, 582 personnes ont été éloignées, dont 219 entre le 61e et le 90e jour de rétention. Le taux d'éloignement des personnes retenues, plus de 45 jours, s'établit à 45%. Soit un total légèrement inférieur à celui de l'ensemble des personnes retenues. L'allongement de la durée de rétention produit donc des effets positifs sur le nombre d'éloignements. Les 582 éloignements réalisés n'auraient probablement pas pu avoir lieu sans l'allongement de la durée de rétention. Cette mesure a cependant fait naître de nouveaux besoins en termes d'accompagnement sanitaire, psychologique et d'occupation des personnes retenues.
Cette conclusion est glaçante, car elle pourrait donner l'idée d'augmenter à nouveau la durée de rétention pour arriver à expulser quelques personnes supplémentaires, et qu'il suffirait d'apporter des soins psychiatriques pour réduire l'impact délétère que les conditions et la durée d'enfermement ont sur les personnes retenues. Je maltraite, mais je soigne. Justifier l'efficacité de la mesure en mettant en évidence le fait que 45% des personnes retenues plus de 45 jours sont expulsées durant cette période est fallacieux. Car celle-ci ne représente que 5% de la totalité des personnes retenues, et même 2% pour celles expulsées au-delà de 60 jours de rétention. En d'autres termes, les bénéfices froidement comptables de la réforme de la loi sont qu'un accroissement de 100% du temps maximum de rétention permet d'expulser 5% des personnes retenues, tout en reconnaissant les dégâts psychologiques résultant d'une telle mesure. Il est à noter que les législateurs qui ont lu ce rapport n'ont pas fait mentalement ce simple calcul de proportionnalité, le niveau CM2 6e. Ce point n'a même pas été débattu en commission, faisant la preuve de leur cynisme ou de la facilité avec laquelle ils peuvent être manipulés. Nous ne pouvons pas nous réjouir de cet échec, présenté comme un succès, car, même s'ils représentent un peu moins de 11% des personnes retenues, elles ont été un peu plus de 1300 à supporter un enfermement de plus de 45 jours dans des conditions dégradantes et psychologiquement destructrices, alors qu'elles n'ont commis aucun délit.
Absurdistan. Les chroniques de l'absurde. J'invite celles et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet à lire le rapport national 2019 sur les centres et locaux de rétention. Le rapport est disponible sur le site web de la CIMAD, lacimad.org/publication. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe bénévole qui intervient au CRA, contactez-nous au 05 61 41 13 20 ou par mail toulouse@lacimad.org. Ainsi s'achève le billet radiophonique de nos voyages en Absurdistan, pays abracadabrantesque et désespérant que nous vous ferons visiter régulièrement au travers des témoignages de nos visites de personnes retenues, ainsi que de points d'information générales sur ce système et sur la vie au CRA de Corne-Barieux. À bientôt.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience.
Et nous voici arrivés, donc, à Contre-Histoire, un sujet dont vous avez entendu parler de temps en temps. C'est un sujet récurrent, c'est le moins qu'on puisse dire. Le naufrage de l'EPR, qui se construit petit à petit, un pas en avant, trois pas en arrière, à Flamanville. À Flamanville, l'autorité de sûreté nucléaire est dans la main d'EDF. C'est un article qui est rédigé par Pascal Pascariello en 2016. C'est de la contre-histoire, hein, c'est l'histoire du nucléaire français dans son dernier, dans sa dernière monstruosité. Oui, bon. Deux inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire chargée du contrôle sur le chantier de l'EPR, futur réacteur en construction, et dans trois autres centrales en Normandie, ont subi des pressions et des menaces de la part de leur direction au profit d'EDF et au mépris de la sécurité. Oui, alors l'autorité de sûreté nucléaire, c'est une administration qui chapeaute, qui surveille, qui contrôle tout ce qui est centrale nucléaire dans le pays. Et bon, moi dans le temps, je pensais que c'était effectivement le gendarme du nucléaire et que ça nous protégeait. Et puis au fur et à mesure, et en particulier à partir du dossier et des malheurs récurrents de l'EPR, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Et vous allez voir ce qui cloche. Je suis inspecteur du travail à la division de Caen de l'autorité de sûreté nucléaire ASN. Depuis 2011, j'ai subi et encaissé, dans le cadre de mon activité professionnelle, de nombreuses et parfois très lourdes pressions, voire menaces, de multiples injonctions contradictoires qui ont généré une situation de souffrance au travail. C'est ainsi que débute le recours d'Alain en août 2016 pour faire reconnaître en accident du travail son épuisement psychologique survenu le 16 octobre 2015. La direction de l'autorité de sûreté nucléaire a essayé de m'imposer sa position ou de m'influencer sur les choix que j'avais à faire dans le cadre de ma mission d'inspecteur du travail. cela en particulier sur des sujets représentant des enjeux pour l'EDF, dès qu'un contrôle pouvait engendrer des suites pénales ou ayant un impact industriel. Explique Alain. Résultat, il y a un an, il s'écroule. Ce burn-out oblige Alain à interrompre son activité professionnelle durant 7 mois. L'expertise médicale est claire. Épuisement professionnel. Le trouble peut être considéré comme accident du travail, conséquence d'une série d'événements survenant par le fait ou à l'occasion du travail. Depuis 2008, en tant qu'inspecteur du travail, Alain, ingénieur de l'industrie et des mines, est en charge en Normandie de 3 centrales en activité et du chantier de l'EPR, donc. À ses côtés, à partir de 2010, Laurent assure également une partie des contrôles de sûreté nucléaire. Ces deux inspecteurs ont mené, entre 2010 et 2014, des contrôles qui ont abouti pour certains à des procès retentissants. Suite à l'accident mortel d'un soudeur, le 24 janvier 2011, sur le chantier de l'EPR, leur enquête retient la responsabilité de 2 entreprises, dont Bouygues. Toujours sur le chantier du futur réacteur nucléaire, leurs inspections ont révélé la situation de travail illégal de près de 500 ouvriers polonais et roumains. Encadrés et dirigés par Bouygues, ils n'avaient ni congé payé, ni droit au chômage, mais par contre, ils avaient un salaire inférieur à la convention collective française. Ce système de fraude dont Bouygues a bénéficié entre 2009 et 2012 sur l'EPR lui a permis de belles économies. L'URSSAF, quant à elle, estime son préjudice global entre 9 et 12 millions d'euros. Le contrôle mené par les inspecteurs Alain et Laurent aboutira à un procès en correctionnel en mars 2015, l'une des plus importantes affaires de travail illégal jugées en France. Bouygues écope de 25 000 euros d'amende. Loin d'être félicités pour leur professionnalisme, ces 2 inspecteurs ont subi de nombreuses pressions de leur direction, fait rapporté par Alain dans son dossier. En juin 2011, EDF s'oppose à son inspection inopinée dans la centrale de Flamanville. Informé, le procureur de la République de Cherbourg demande à Alain de lui signaler par écrit ce délit, afin qu'il rappelle à EDF son obligation de respecter la loi. Mais Alain est confronté à sa direction, qui tente de le dissuader de notifier ce délit à la justice. Néanmoins, il ne cède pas à ces pressions et envoie un courrier au parquet de Cherbourg. Quelques semaines plus tard, il est convoqué par sa direction pour un entretien officieux de sanction. Il est alors informé que son comportement remet en cause sa carrière. Sa direction va jusqu'à lui reprocher d'avoir adressé à EDF un courrier signalant les poursuites judiciaires encourues. J'observe que ma hiérarchie ASN est très rapide pour me demander de me justifier, tant sur mes constats que pour ce qui concerne mon comportement, quand EDF s'en plaint. Par contre, mes supérieurs sont beaucoup moins prompts à réagir quand il s'agit de me défendre vis-à-vis de l'EDF, constate Alain. Les pressions de ce type se multiplient. Les entretiens de sanctions également. On reproche à Alain d'avoir alerté en 2013 le ministère du Travail sur une organisation mise en place par EDF dans les centrales en matière de radioprotection et présentant des risques pour les salariés. Alain informe EDF par courrier qu'au regard des irrégularités constatées, il envisage de proposer une mise en demeure. Il est convoqué pour un rappel à l'ordre par sa direction. Pire. Bien pire. Ignorant les conclusions de l'inspecteur, la direction de l'autorité de sûreté nucléaire et le ministère du Travail décident conjointement de réviser la réglementation en faveur d'EDF. Quelle est loin la belle image d'une institution indépendante et transparente, prônée par Pierre-Franck Chevet, président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le 6 novembre 2012, à sa nomination, lors de son audition par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Pierre-Franck Chevet déclarait « Selon moi, l'ASN repose sur 4 valeurs essentielles. Compétence et rigueur, indépendance et transparence. Toutes sont nécessaires, mais ne sont suffisantes qu'inscrites dans la durée. » Bel exercice de communication qui tranche avec une toute autre réalité. Lorsqu'Alain signale des irrégularités manifestes et graves de la part d'EDF, sa direction fait obstacle à ses conclusions. Certains échanges décrivent comment l'ASN valide les irrégularités d'EDF. Alain alerte ainsi sa direction. « Je constate qu'EDF Flamanville ment et nous dissimule volontairement des informations relatives à la radioprotection. Je prévois un rappel à l'ordre. Et je dois défendre une nouvelle fois, mot pour mot, mes observations et justifier ma position vis-à-vis de ma hiérarchie. Et donc y consacrer un temps et une énergie non nulle. Bilan. EDF ment et nous offre même les preuves écrites. Est-il envisagé un rappel à l'ordre écrit par l'ASN? Non. Qui s'en prend plein la gueule? L'inspecteur du travail, qui projette de rappeler par écrit à EDF que le mensonge aux autorités administratives et judiciaires est un délit. Face à ces pressions exercées sur ces inspecteurs, et alors même que l'autorité de sûreté nucléaire, gendarme du nucléaire, se doit d'être affranchie de tout lien avec EDF, la justice va intervenir. En effet, en octobre 2013, survient un nouvel incident sur le chantier de l'EPR. Une pièce d'un appareil de manutention, le pont polaire, situé à l'intérieur du bâtiment du réacteur, est projetée en l'air et fait une chute de 20 mètres. Par chance, aucun ouvrier n'est blessé. Alain et son collègue Laurent procèdent au contrôle de cet équipement, utilisé pour lever et installer des composants pouvant atteindre plus de 560 tonnes. Il s'agit d'un appareil primordial en termes de sûreté nucléaire et de sécurité des travailleurs. Le rapport des inspecteurs révèle qu'EDF a mis en place un dispositif non conforme qui ne dispose d'aucun système d'arrêt d'urgence. Vu la gravité des faits constatés, Alain et son collègue alertent à plusieurs reprises EDF, qui ignore ces rappels à l'ordre, qui s'apprête même à utiliser son dispositif à haut risque pour installer la cuve du réacteur, mettant ainsi en danger les salariés et les installations. Les deux inspecteurs saisissent la direction régionale du travail pour mettre en demeure EDF, qui dispose alors de 6 mois pour rendre sa machine aux normes. D'ici là, interdiction formelle de l'utiliser. Mais EDF n'a pas l'intention de respecter la loi. Il a d'ailleurs préparé une grande journée de communication en rameutant la presse locale et nationale pour assister à l'installation de la cuve de l'EPR. La direction régionale du travail rappelle alors EDF à l'ordre dans un courrier du 16 janvier 2014. Vous envisagez de réaliser les premières manutentions dès le 21 janvier 2014. Je vous rappelle qu'il n'existe aucune possibilité applicable à votre situation de déroger à la loi qui interdit d'utiliser des équipements de travail qui ne répondent pas aux règles techniques de conception. Allant à l'encontre de ses propres inspecteurs et de la direction régionale du travail, c'est le directeur général de l'autorité de sûreté nucléaire en personne qui, le 21 janvier 2014, écrit à EDF « Je vous informe ne pas avoir d'objection à la réalisation des opérations de levage de gros composants. » La direction de l'ASN autorise ainsi EDF à enfreindre la loi et à utiliser un équipement dangereux en l'état pour les salariés et la sûreté nucléaire. Les faits sont si graves que le procureur de la République, Éric Bouillard, décide d'y donner suite en ouvrant une enquête préliminaire. Motif ? Mise à la disposition des salariés de matériel dangereux et utilisation de ce matériel malgré une mise en demeure. En juin 2014, il la transmet au parquet de Nanterre afin que soit entendue la direction de l'autorité de sûreté nucléaire dont le siège est en région parisienne. Le procureur Éric Bouillard souhaite comprendre pourquoi l'ASN, une autorité qui doit être indépendante à l'égard de celui qu'elle contrôle, surtout en matière de sûreté nucléaire, a contredit ses propres inspecteurs et a autorisé EDF, alors qu'il existait une interdiction d'utiliser cette machine, à enfreindre la loi au risque de mettre en danger des hommes et des installations. Depuis, Éric Bouillard a été nommé à la tête du parquet d'Ajaccio. Il a tenté, avant son départ en septembre 2015, de savoir où en était l'enquête du côté de Nanterre. Silence radio. Le parquet de Nanterre explique ne pas retrouver le dossier d'enquête. Impossible donc de se pencher sur les liens entre l'ASN et EDF. La transparence, ça a des limites.
Devono tomu heranu. sevan tonumez her an.
Après ce nouvel affront de leur direction, Laurent, le collègue d'Alain, ne tiendra pas longtemps. Épuisé psychologiquement, il devra cesser son travail en juillet 2014. Le président de l'ASN, Pierre-Franck Chevet, n'ignore rien de la situation. En effet, suite au burn-out de son collègue, Alain lui adresse le 30 juillet 2014 un courrier détaillé faisant état de l'ensemble des pressions subies. La réponse du président de l'ASN ne viendra que 2 mois plus tard. Il félicite le travail de l'inspecteur et regrette à demi-mot le comportement d'EDF. Cependant, nulle part, il ne fait mention des diverses pressions exercées. Encore moins des solutions pour y remédier. Alain conclut « Le courrier du président de l'ASN n'exprime aucune reconnaissance des dysfonctionnements que je décrivais, ni aucune proposition de nature à éviter qu'il se renouvelle. » Après le départ de son collègue, la situation d'Alain ne va pas s'améliorer. Épuisé, il assume seul le travail de 2 inspecteurs. Mais un espoir survient en septembre 2015, lorsqu'il apprend que son collègue Laurent est prêt à réintégrer son poste, toujours vacant. Fausse joie. Le 16 octobre, il apprend officieusement que la direction de l'ASN s'oppose au retour de Laurent, pourtant seul postulant à ce poste. Alain s'effondre et envoie ce mail à sa direction. « Je suis au bord de l'explosion, d'un côté par la charge de travail avec des dossiers importants, de l'autre, la perspective qu'il n'y ait toujours personne sur le poste, alors qu'il y a un candidat, Laurent, qui correspond parfaitement. C'est juste insupportable pour moi. Quel est l'objectif réel de l'ASN ? Me détruire ? Me pousser au départ ? Au burn-out ? Au suicide ? » Le même jour, une alerte du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est lancée pour danger grave et imminent concernant Alain en situation professionnelle de détresse. Alain a été en arrêt maladie durant 7 mois. Alain et son collègue ne sont pas seuls. Plus de 10 ingénieurs de l'autorité de sûreté nucléaire ont tenu à leur apporter leur témoignage et soutien. Tous reconnaissent l'investissement et la rigueur des 2 inspecteurs, formant un binôme efficace et vertueux, pour reprendre l'une des attestations écrite. Alain est notamment présenté comme un agent performant et motivé, ayant une énorme capacité de travail, très soucieux de sa mission au service des conditions de travail des salariés. Certains ingénieurs s'interrogent également sur le comportement de leur direction à leur encontre. L'un d'entre eux fait ce constat. Les difficultés avec l'exploitant EDF et des pressions sont supportées directement par l'inspecteur et pas par l'administration ASN. Cette situation est d'autant plus difficile lorsque les positions de la hiérarchie de l'ASN et de l'inspecteur ne sont pas partagées. J'ai souvenir d'un moment difficile pour Alain et son homologue lorsqu'ils ont constaté que le pont polaire de l'EPR et surtout les dispositifs devant soulever les équipements lourds n'étaient pas conformes à la réglementation. Là encore, ils ont eu beaucoup de mal à faire accepter leur position par la hiérarchie de l'ASN. Pour conclure, je suis inquiet de la situation, singulièrement pour la santé d'Alain, mais également plus largement en observant que l'administration ne sait pas prendre en compte les risques psychosociaux encourue par ses agents. Alors même que le silence est d'usage au sein du corps des mines, Alain a également reçu une lettre signée par 19 ingénieurs de l'Autorité de sûreté nucléaire en avril 2016, dont voici un extrait. Nous tenions à t'exprimer notre soutien et notre admiration devant ton courage. Ton courage, nous le connaissions déjà. Il était clair devant ton investissement sans relâche. Ton courage à ne jamais baisser les armes devant l'adversité quand la plupart d'entre nous auraient sans doute plié pour se protéger. En s'y mettant à tous, on va bien trouver un moyen de te renvoyer l'ascenseur. Le burn-out d'Alain n'a pas été sans conséquence à l'intérieur de l'ASN. Pierre-Franck Chevet a adressé en mai 2016 à la division de Caen, dont dépend l'ingénieur, le message suivant. Je comprends l'émotion que vous avez ressentie à la suite de l'intervention d'Alain. Un point a eu lieu entre les représentants du personnel siégeant au comité d'hygiène et de sécurité et la direction générale de l'ASN. Cette réunion a permis un partage d'informations et un examen des premières actions pouvant contribuer à vous apporter un soutien. J'invite celles et ceux d'entre vous qui en éprouvent le besoin à s'adresser à la cellule d'écoute qui vient d'être mise en place. Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail a lancé une expertise sur les conditions de travail confiée au cabinet IDENEA. Alain ne serait pas un cas isolé au sein de l'ASN, selon le comité d'hygiène et de sécurité, qui n'a pas souhaité s'exprimer davantage sur la situation. L'ASN a refusé de considérer l'épuisement professionnel d'Alain comme accident du travail.
Shadows look false, men are coming out. Hocus terne de pacvelen varu. Senarume im hocis amen ora. Hachkes ko jumping, karoto vmana. Pusheras the kvaz, menakem manase. Hokus ternera pakvelen vaguz. Zelanu me vokis amena. Hachkes tats ko jumping.
L'ASN a finalement décidé de donner un avis favorable à la cuve de l'EPR de Flamanville, tout en imposant un changement de couvercle d'ici 2024. Elle laisse le choix à EDF de démarrer ou non l'EPR en attendant. En refusant de trancher, l'autorité indépendante semble renoncer à la politique du zéro risque dans l'exploitation du nucléaire. Si le dossier d'habilitation de la cuve de l'EPR par l'autorité de sûreté nucléaire ASN n'était pas si grave et n'avait pas tant d'implications en matière de sécurité, il mériterait d'être examiné sous le seul angle de la capture de la neutralisation du régulateur ASN par Areva, EDF et les pouvoirs publics. Car c'est un cas d'école. Rarement une autorité indépendante ne s'est retrouvée autant piégée. Non seulement la suite du chantier de Flamanville dépend de son agrément, mais les pouvoirs publics et la filière nucléaire ont subordonné d'autres engagements à cet accord. Par contrat, le démarrage opérationnel de l'EPR à Taishan en Chine, l'agrément de Bruxelles à l'augmentation du capital de 4,5 milliards financé par l'État français pour sauver Areva en faillite, vous vous souvenez, et la reprise de l'activité des réacteurs Areva du fournisseur nucléaire par EDF sont conditionnés au feu vert de l'ASN. Eh oui. Même le contrat d'Inkley Point qui est lié au démarrage de Flamanville avant 2020. Inkley Point, c'est le site britannique où il doit y avoir l'implantation de deux EPR. En un mot, l'autorité indépendante de sûreté s'est retrouvée en lieu et place du politique, comptable du sort de la filière nucléaire française, de son avenir industriel, des milliers d'emplois qui y sont liés. L'ASN a-t-elle le choix de dire non? Se demande Michèle Rivasi, députée européenne ELV, dans un communiqué. Bonne question. Les responsables de l'ASN ont tenté de desserrer par tous les moyens l'étau dans lequel on a voulu les enfermer. Ils ont appelé à la rescousse des experts pour crédibiliser leur avis. Pendant 2 jours, 31 membres du groupe permanent d'experts pour les équipements sous pression nucléaire, industriels, associations, etc., ont examiné le long rapport de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, et de la direction de l'ASN, qui étudie le dossier depuis près de 18 mois. L'autorité de sûreté nucléaire a également invité ses homologues chinois, finlandais et britanniques à débattre du sujet. Après avoir recueilli leur avis, le collège de l'ASN a rendu le 28 juin une décision préliminaire qu'elle a tenue à expliquer publiquement. En dépit des anomalies sérieuses, l'autorité de sûreté nucléaire valide la cuve de l'EPR de Flamanville, à condition que celle-ci fasse l'objet de contrôles suivis. En revanche, compte tenu des difficultés, voire des impossibilités de contrôler le couvercle, l'ASN n'autorise sa mise en service que jusqu'en 2024. Ça veut dire qu'à partir de 2024, il faudra recommencer toute la procédure d'autorisation et que ça prend du temps. Cet avis, censé être équilibré, est loin de faire l'unanimité. 2 membres du collège jugeant que la situation ne prêtait pas à discussion et qu'il fallait refuser d'homologuer les 2 pièces centrales du réacteur ont choisi de s'abstenir. C'est complètement irresponsable. Ça signifie que pendant 6 ans, l'EPR fonctionnerait avec un couvercle défectueux et non contrôlé. L'ASN s'est couchée devant la pression des industriels EDF et Areva et a fait prévaloir leurs intérêts économiques. Elle a donc failli à ses devoirs. Face à ces circonstances très préoccupantes, le ministre en charge de la sûreté nucléaire à l'époque, Nicolas Hulot, doit remettre de l'ordre dans la gouvernance de la sûreté nucléaire, a réagi de son côté Yannick Rousselet, chargé du dossier nucléaire chez Greenpeace. Alors que l'ASN s'est toujours montré, jusqu'alors, le gardien vigilant du respect strict des règles nucléaires, sa dernière décision paraît miner sa crédibilité. Ah ben oui, évidemment, hein. Sa capacité à imposer ses choix. L'autorité donne le sentiment d'un changement de doctrine, du risque zéro qu'elle a toujours défendu. Elle semble glisser insensiblement vers le risque acceptable, notion prônée par les exploitants nucléaires qui jugent le surcoût du risque zéro trop élevé. L'exploitant de Fukushima, l'électricien japonais TEPCO, était un adepte de cette théorie. Certains observateurs prônent les circonstances atténuantes. Ne s'agit-il pas plutôt d'une manœuvre habile afin de se sortir du piège tendu, s'interroge-t-il. À plusieurs reprises, lors de sa conférence de presse, le président de l'ASN, Pierre-Franck Chevet, a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait que d'une décision préliminaire, qu'il attendait beaucoup de la consultation publique qui doit être menée d'ici à septembre. La décision d'autorisation définitive devrait être prise en octobre 2017. Vous avez entendu parler d'une consultation publique sur l'EPR de Flamanville, vous ? Ben moi pas. Même s'il s'agit d'un artifice pour retrouver un peu de marge de manœuvre, le choix de l'autorité de sûreté risque de rester longtemps largement incompréhensible, tant il est à rebours de toutes ses actions précédentes. Depuis des années, l'ASN bataille face à Areva et EDF sur le chantier de l'EPR. Il lui a fallu des années pour obtenir que des contrôles soient effectués sur l'acier de la cuve. Ce n'est qu'en avril 2015, alors que la cuve de l'EPR était déjà installée, qu'elle a pu mesurer l'ampleur du problème, l'ASN. L'acier qui composait la cuve présentait des fragilités en raison d'un excès de carbone. Je vous ai déjà répété ça 10 fois. Dans la sidérurgie, on connaît de longue date ce problème. Des concentrations excessives de carbone à certains points rendent l'acier fragile, cassant, susceptible de multiples fissures en cas de sollicitation excessive. Et les sollicitations thermiques ou mécaniques sont infinies au cœur d'un réacteur nucléaire. à ce stade. L'autorité de sûreté nucléaire a obligé Areva et EDF à procéder à des milliers de tests, ce qui l'a conduit à conclure aujourd'hui à des anomalies importantes qui n'ont rien à voir, précise-t-elle, avec les défaillances et les comportements irréguliers notés au Creusot. Oui, le Creusot, le principal pôle de la sidérurgie nucléaire. En réalité, de ces anomalies techniques, les marges de sécurité sont réduites par rapport à une cuve normale. Malgré ça, elle estime que la cuve peut entrer en service car les contrôles existent et permettent d'assurer des surveillances en continu et de prévenir tout risque. En revanche, les contrôles, selon l'ASN, sont impossibles au niveau du couvercle, compte tenu de la complexité du design de l'EPR. Problème qu'avaient souligné très tôt des ingénieurs d'EDF. Pour l'ASN, le couvercle doit être changé dans les plus brefs délais. L'autorité accorde malgré tout une autorisation de fonctionnement jusqu'en 2024. Ce calendrier correspond aux 7 ans nécessaires pour forger et réinstaller un nouveau couvercle de la cuve. Pourquoi alors ne pas avoir interdit directement la mise en service du couvercle actuel, plutôt que d'exiger son remplacement dans les plus brefs délais? Cette condition n'est-elle pas, finalement, une façon d'interdire, sans l'exprimer, la mise en service de l'EPR? Le remplacement du couvercle, une fois le réacteur en marche, étant très difficile. Le changement de couvercle n'est pas impossible. Cette opération a été réalisée dans plusieurs centrales. Oui, sauf que des EPR, il en existe pas d'autres. C'est compliqué et coûteux. C'est à EDF d'arbitrer sur ce qu'il doit faire, pas à nous, a expliqué Pierre-Franck Chevet, président de l'ASN. Avant d'ajouter, si l'EPR démarrait en 2024, ce serait encore mieux. Laisser le choix à EDF de décider par lui-même sur ce qu'il convient de faire à Flamanville, c'est déjà connaître la réponse. L'électricien veut en finir au plus vite avec le chantier ruineux de l'EPR. Toutes ses prévisions ont explosé. Le chantier a déjà plus de 8 ans de retard. Le coût a été multiplié par 3. Et dépasse désormais largement les 10 milliards d'euros avoués. On parle plus loin de 12 milliards. À ce stade, il n'est même pas assuré que l'EPR puisse être rentable. Le prix de production du mégawattheure étant désormais aussi élevé que celui des plus chères énergies renouvelables. La même mésaventure est en train de se reproduire sur le projet d'Hinkley Point. En refaisant les premières additions, les équipes d'EDF ont trouvé 3,5 milliards d'euros de coûts supplémentaires qui n'avaient pas été comptabilisés sur un projet évalué autour des 22 ou 23 milliards. Pour EDF, il y a donc urgence à limiter au maximum les pertes financières. Dès l'avis de l'ASN connu, le groupe a confirmé le démarrage de l'EPR de Flamanville pour fin 2018. Pas avant 3 ans, avait pourtant affirmé de son côté le président de l'ASN, indiquant en creux que l'EPR n'entrerait pas en service au mieux avant 2020. Cette bataille de calendrier indique, en tout cas, que l'aventurisme qui préside autour du projet de l'EPR est loin d'être achevé et fait perdre pied au monde nucléaire. Ce réacteur a déjà entraîné Areva en la faillite. EDF est en train de poursuivre une folle fuite en avant financière pour le réaliser. L'ASN vient d'y perdre une partie de sa crédibilité. Alors ça, c'était la situation en juillet 2017. Et que c'est pas fini, mais on va prendre un bol de Duduk pour se donner du courage. Et on arrive au 20 juin 2019. 20 juin 2019. Et voici l'article de Martine Orange, de Mediapart, qui met les points sur les i. Conseil d'administration extraordinaire, jeudi soir, à EDF, pour faire le point sur l'EPR de Flamanville, dont le chantier risque d'être retardé jusqu'à fin 2022. La filière nucléaire française sombre quand le gouvernement veut imposer le démembrement d'EDF pour le réduire au rôle de producteur nucléaire. État d'urgence. Ce matin-là, l'autorité de sûreté nucléaire a confirmé qu'EDF devra reprendre immédiatement 8 soudures sur l'EPR de Flamanville. Alors, je ne sais pas si c'est sur la cuve ou si c'est sur le couvercle, mais 8 soudures, c'est énorme. Jusqu'au bout, EDF a pensé pouvoir différer au moins jusqu'en 2024 les réparations demandées par l'ASN depuis 2016. La direction du groupe public a invoqué le coût, l'excès de prudence de l'ASN, les risques, pour la filière nucléaire évidemment, l'image de l'EPR. Mais l'autorité de sûreté, lassée de se faire balader depuis des années, est inflexible pour une fois. Les réparations doivent être faites immédiatement. Pour EDF, les dommages sont immenses. Pour l'EPR, les dégâts sont sans doute irréversibles. Ce réacteur nucléaire, censé être la figure de l'excellence du nucléaire français, se révèle un fiasco absolu. À l'origine, la construction de Flamanville, commencée en 2007, devait être achevée en 2012 et l'ouvrage devait coûter 3,5 milliards d'euros. L'EPR ne sera sans doute pas terminé avant fin 2022. Son coût risque de dépasser les 12 milliards d'euros. Chaque mois de retard coûte 200 millions d'euros à l'EDF. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là pour EDF. Avec ce nouveau retard, le décret d'autorisation de mise en service, dont je vous parlais tout à l'heure, expire en 2020. Celui-ci avait déjà été remanié une fois pour faire face au retard du chantier. Mais cette fois, il risque d'être difficile de répéter cette manœuvre. EDF pourrait devoir recommencer toute l'opération. C'est un problème connu de longue date. Mais la direction n'a rien préparé. Ce n'est pourtant pas la faute d'avoir été prévenus. Ils ont cru à leur bonne étoile, s'indigne un connaisseur du dossier. Greenpeace critique l'attitude de la direction d'EDF à peu près dans les mêmes termes. EDF n'a cessé d'être dans le déni depuis 2013 en refusant de reconnaître l'existence de ce problème, puis en refusant la réparation, puis en voulant réparer après démarrage. Cette attitude scandaleuse au regard de la sûreté nucléaire qui aboutit aujourd'hui à une décision sans appel de l'ASN décrédibilise tout le programme EPR et la stratégie industrielle d'EDF, explique Greenpeace.
Thank you.
Lors de la discussion sur le lancement des deux EPR de Hinkley Point en Angleterre, les ingénieurs avaient mis en garde la direction d'EDF sur les risques existants à Flamanville. Aucun de leurs avertissements n'a été entendu. Jean-Bernard Lévy, avec le soutien actif d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, avait décidé de passer en force malgré la rébellion de tous les cadres et salariés du groupe. Personne à ce stade ne sait quelles pourraient être les répercussions sur Hinkley Point, où EDF a déjà investi près de 2 milliards d'euros. Mais elles pourraient être énormes. Le groupe s'étant engagé à construire les deux EPR en à peine 5 ans. Un calendrier jugé impossible, avant même les nouveaux déboires de Flamanville. Situation critique pour EDF, qui survient au moment même où le groupe se prépare à une grande réorganisation pour justement abandonner le statut de groupe électrique intégré pour ne plus être qu'un fournisseur d'énergie nucléaire. Une réunion du comité européen du groupe s'est tenue le 19 juin, puis une réunion de l'intersyndicale le 20 juin pour présenter le projet Hercule, censé redéfinir l'avenir de l'entreprise publique d'électricité. Lors de ces réunions, le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, donc, a refusé les mots de scission et de démantèlement. Mais c'est bien un démantèlement et une privatisation partielle d'EDF qui se dessine. Emmanuel Macron ne croit pas aux énergies renouvelables. Pour lui, la réponse au réchauffement du climat, la transition énergétique, passe par le nucléaire, confirme un proche du dossier. Mais le nucléaire à la main de l'État, faisant assumer toutes les charges et tous les risques au public et aux consommateurs, en masquant les échecs, les impasses et le coût véritable. Officiellement, le débat reste ouvert et rien n'est arrêté. Il s'agit toujours d'organiser la séparation des activités en deux grands blocs. D'un côté, une partie amont qui regrouperait les activités nucléaires et hydrauliques du groupe, et de l'autre, une partie en aval regroupant les réseaux, la distribution, les énergies renouvelables et les métiers de service, entretien, etc. Cette désintégration est celle préconisée déjà par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'Économie. Même si aujourd'hui l'État veut donner l'impression qu'il est en dehors de la discussion, il est bien là. D'ailleurs, Lévy ne s'en cache même pas. Il répète à tout instant « L'Élysée m'a dit, le gouvernement m'a dit », rapporte un des participants. À partir de ce schéma, le gouvernement négocie dans la plus grande opacité avec la Commission européenne. Les obligations imposées à l'EDF au nom de la concurrence et de l'ouverture du marché de l'énergie. Pour pouvoir conserver les barrages, au moins les plus importants dans le giron d'EDF, la France s'est engagée à les ouvrir à la concurrence. Le gouvernement propose aussi qu'EDF ouvre aux capitaux privés, voire privatise totalement ses activités aval. Pour les 4 fédérations syndicales, CGT, CFDT, FO et CGC, d'EDF, ce qui se trame est purement inadmissible. Le seul fait que le président de Total, qui se pose désormais comme un concurrent direct d'EDF, approuve à deux mains ce projet, sonne pour eux comme un avertissement. Et comme on les comprend. Voir les banques d'affaires valoriser Enedis, l'activité de distribution d'EDF à 40 milliards d'euros, est pour eux comme un mauvais présage. Oui, alors ça, c'est peut-être pas très clair, mais ça s'éclaire tout de suite. L'activité de distribution de l'électricité appartient aux communes. Ce sont des valorisations totalement délirantes, d'abord parce qu'Enedis n'appartient pas à EDF, il n'en est que le gestionnaire. Enedis appartient par la loi de 1948 aux communes, et je doute que les petites communes et les syndicats de communes soient d'accord pour lâcher un réseau de distribution publique qui apporte l'électricité à tous, commente un proche du dossier. les syndicats analysent tous ces chiffres et ces schémas comme un abandon du service public, de l'industrie, au profit d'une financiarisation accrue. La désintégration du groupe se traduira forcément par une destruction des effets d'échelle et de gestion qu'offre un système intégré et par un surcoût entièrement à la charge des consommateurs. Un surcoût qui risque de s'alourdir si le gouvernement entend poursuivre son aventure dans le tout nucléaire malgré la catastrophe de l'EPR, sans préparer la transition énergétique et l'avenir. Décidé à se battre contre les projets gouvernementaux pour sauver le service public, les syndicats ont acté, à l'issue de leur réunion, une série de mouvements à partir du début de l'été. Un appel à la grève a même déjà été arrêté pour le 19 septembre. Mais EDF, ce n'est pas qu'un face-à-face entre la direction et les syndicats. EDF, c'est à tout le monde. Il serait bien que les élus, les citoyens, s'emparent du débat. Pour l'instant, personne ne regarde le dossier. Personne ne pose de questions, s'inquiète François Dos Santos, secrétaire général adjoint du comité central d'entreprise EDF. Cette indifférence pourrait rapidement se dissiper. Avec le nouveau retard de Flamanville, EDF entre dans la tempête. C'est toute la filière nucléaire qui est remise en cause. Je vous remercie d'avoir tenu le choc et je vous dis à bientôt, donc à samedi.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience.